Vous écoutez On lit pour vous.
Dans un monde en crise, la Charte des Nations Unies est plus indispensable que jamais. Un texte de la rédaction paru le 26 juin 2026 sur le site de l'ONU. La Charte des Nations Unies n'est pas un simple document historique. Elle est une promesse faite à l'humanité de choisir la coopération plutôt que le chaos, la dignité plutôt que la domination et l'espoir plutôt que la peur. 81 ans après sa signature, cette promesse est aujourd'hui mise à rude épreuve, mais reste plus indispensable que jamais, ont affirmé les dirigeants de l'ONU lors de la commémoration de la journée de la Charte des Nations Unies. La Charte est née de la catastrophe et du courage de bâtir un monde meilleur, a rappelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une réunion informelle de l'Assemblée générale consacrée au thème « Plus fort ensemble, une charte, un avenir ». Adoptée en 1945, au lendemain de deux guerres mondiales, la charte portait un engagement fondateur. Sauver les générations futures du fléau de la guerre, réaffirmer les droits humains fondamentaux et promouvoir le progrès social. Mais dans un monde marqué par les conflits, les crises climatiques, les inégalités croissantes et les tensions géopolitiques, cet engagement est confronté à des défis sans précédent. Aujourd'hui, cette promesse est testée jusqu'au point de rupture, a averti Antonio Guterres. Il a cité les guerres qui se prolongent, la famine utilisée comme arme, les civils pris pour cible, les cessez-le-feu brisés et l'affaiblissement du respect du droit international. Miracle de l'humanité. Pour le chef de l'ONU, la réponse ne peut être un retrait derrière les frontières nationales. Aucun pays ne peut gouverner l'intelligence artificielle seul, mettre fin à une pandémie seul, ou protéger sa population contre les chocs mondiaux seul, a-t-il insisté, rappelant que, dans un monde de dangers partagés, la coopération n'est pas de la naïveté. La présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, Annalena Baerbock, a elle aussi défendu le rôle unique de l'organisation. « Les Nations Unies sont un miracle de l'humanité », a-t-elle déclaré, soulignant que réunir aujourd'hui 193 États membres autour de principes communs, malgré leurs différences politiques, économiques et militaires, serait difficilement imaginable sans l'héritage de 1945. Mais elle a reconnu que l'ONU devait évoluer. Une organisation qui a grandi pendant 8 décennies avec des structures qui se chevauchent, plus de 40 000 mandats et 27 000 réunions par an a besoin d'une réforme profonde pour être plus agile et plus efficace, a-t-elle dit, appelant à faire de l'initiative ONU 80 un véritable outil de transformation. Pour autant, elle a mis en garde contre ceux qui utilisent les faiblesses de l'organisation pour remettre en cause son existence. Les objectifs de développement durable, les droits humains et l'action humanitaire, a-t-elle rappelé, sont les fondamentaux de la Charte et non des missions secondaires. Le secrétaire général a également appelé à renforcer les institutions multilatérales, notamment à travers une réforme du Conseil de sécurité et de l'architecture financière internationale. La réforme doit renforcer l'Organisation des Nations Unies, pas l'affaiblir, a-t-il affirmé. Le multilatéralisme fonctionne. Car, malgré ses limites, l'ONU continue de produire des résultats concrets, ont insisté les deux dirigeants onusiens. Les casques bleus protègent les civils, les convois humanitaires apportent une aide vitale aux populations affamées, Les campagnes de vaccination sauvent des millions de vies et les médiateurs maintiennent ouverts des espaces de dialogue lorsque toutes les autres portes semblent fermées. Le multilatéralisme fonctionne chaque jour, a déclaré Antonio Guterres, rappelant que ses succès sont souvent invisibles. Une guerre évitée grâce à la diplomatie préventive ou une famine empêchée ne font pas toujours les gros titres, mais constituent pourtant le cœur de la mission de l'ONU. Ne pas laisser la peur dominer. La voix de la jeunesse a également marqué la cérémonie. Mariam Solika, jeune leader des Objectifs de développement durable de l'ONU et fondatrice de la plateforme numérique The Good News, a appelé à ne pas laisser la peur dominer le récit mondial. La seule force plus forte que la peur est l'espoir, a-t-elle déclaré, partageant des histoires de résilience de jeunes confrontés aux crises, notamment celle de Tala, une adolescente palestinienne qui transforme les débris de sa maison détruite en matériaux de reconstruction, ou celle de Nour, une avocate palestinienne qui a créé des espaces d'apprentissage pour des enfants déplacés. L'espoir est le courage. L'espoir est la survie, a-t-elle lancé. Alors que la charte entre dans sa 9e décennie, le message porté à l'Assemblée générale est clair. Le monde n'a pas besoin de moins de coopération, mais d'une coopération plus forte, fondée sur les principes qui ont guidé la création de l'ONU. La charte est une promesse de continuer à essayer, surtout lorsque les vents contraires sont les plus forts, a conclu Annalena Baerbock. C'était, dans un monde en crise, la Charte des Nations Unies est plus indispensable que jamais, un texte de la rédaction, paru le 26 juin 2026, sur le site de l'ONU.
La plus longue migration de l'histoire. Un texte de Bruno Lamollet paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. On croyait savoir qui étaient les premières populations à s'être installées sur le continent américain, quand elles étaient arrivées et par où elles étaient passées. On avait faux sur presque tout. Il y a environ 20 000 ans, dans le nord-est de l'Asie, des tribus nomades suivent leur gibier, dont le mammouth laineux, au fil des saisons. Cette migration se poursuit jusqu'à ce que proies et prédateurs se retrouvent coincés pendant plusieurs générations dans une immense toundra, entre mers et glaciers. Ce territoire, appelé Beringie, englobe l'actuelle péninsule du nord-est de l'Asie, l'ouest de l'Alaska, ainsi qu'une bande de terre reliant les deux, le détroit de Bering étant à sec. À cette époque, la planète subit en effet une ère glaciaire qui a fait baisser le niveau des océans. Elle a aussi recouvert le nord de l'Amérique et de l'Eurasie de calottes de glace, à l'exception de la Béringie. Mais, au bout de quelques millénaires, la glace commence à fondre. Un passage s'ouvre à l'est à travers les glaciers. Flore et faune s'y installent. Les clans s'y engouffrent à leur tour. Ils progressent dans un corridor dépourvu de glace longeant les rocheuses, puis aboutissent dans les grandes plaines, au sud de la calotte fondante, au cœur du continent nord-américain. Cette arrivée se serait produite il y a au minimum 13 000 ans, puisqu'on a retrouvé des pointes de lance ou de flèches en pierre, de cet âge, près de la ville de Clovis, au Nouveau-Mexique. On a ensuite déniché des outils similaires, d'à peu près la même époque, fabriqués avec les mêmes techniques, ailleurs en Amérique du Nord. Cette civilisation originelle, dite de Clovis, aurait ensuite essaimé en Amérique du Sud et serait donc l'ancêtre des Premières Nations des deux Amériques. Voilà comment on résumait habituellement l'arrivée des premières populations dans les Amériques jusqu'à il y a quelques années. mais plusieurs découvertes, dont certaines très récentes, ont remis en question cette histoire à plus d'un titre. Elles pointent vers un tout autre récit. Pour commencer, on a trouvé de nombreux sites archéologiques plus vieux que celui de Clovis. Parmi les spécialistes, il semble y avoir un consensus. Des populations humaines occupaient une grande partie de l'Amérique du Nord il y a 16 000 ans. Il existe d'autres sites encore plus vieux, mais la nature artificielle des objets retrouvés ou leur datation sont controversées. C'est le cas du parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique, où l'on a trouvé des traces de pas humains préservées dans le sol. Découverte en 2009, elle date de 23 000 ans, selon des travaux publiés dans Science en 2021. Ceux-ci ont toutefois été critiqués, mais une étude de 2025 dans Science Advances parvient aux mêmes dates avec des méthodologies différentes. Il reste à voir si elle convaincra tous les sceptiques. Quoi qu'il en soit, même le consensus des 16 000 ans soulève un problème. Selon une étude de 2022 publiée dans PNAS, qui en confirme d'autres, le corridor nord-sud à l'est des Rocheuses n'aurait été complètement praticable pour les déplacements humains que depuis environ 13 000 ans, soit 3 000 ans après l'arrivée des premières populations dans les Grandes Plaines. Ces groupes sont donc passés ailleurs. Mais où et quand? Une nouvelle origine. Depuis quelques années, on envisage la possibilité que les premiers clans à coloniser le continent aient plutôt longé la côte du Pacifique depuis la Béringie. Selon une hypothèse, ils auraient marché vers le sud sur une fine bande côtière généralement dépourvue de glace, au fil des générations et au rythme des glaciers qui avançaient puis reculaient le long de la côte, explique Lauren Davis, anthropologue à l'Université de l'Oregon. Toutefois, ses propres recherches le poussent vers une autre hypothèse, publiée dans Science Advances à l'automne 2025. Ces groupes nomades auraient bel et bien longé la côte du Pacifique, mais en bateau, et ils ne seraient pas partis de la Béringie, mais du Japon. À l'écran, Lauren Davis tente tant bien que mal de me montrer un petit objet gris. Celui-ci tient facilement dans sa main et a la forme d'une pointe étirée. C'est la reproduction 3D d'un outil typique d'une dizaine de sites archéologiques nord-américains, vieux de plus de 13 500 ans, précise le scientifique. Ces outils sont des bifaces, soit des pierres plates et allongées qui ont été taillées pour devenir des lames tranchantes polyvalentes. Les travaux de Davis ont montré que ces bifaces américains sont étonnamment semblables à d'autres datés de 20 000 ans, donc plus vieux, et trouvés au Japon. Notre hypothèse est que les premiers Américains sont arrivés du Japon et qu'ils ont amené avec eux le savoir-faire pour fabriquer ces outils, explique Lauren Davis. Il ajoute tout de suite que les peuplades qui habitaient le Japon il y a 20 000 ans ne comptent pas parmi les ancêtres de la population japonaise actuelle. Ceux-ci, comme les Jomon, sont arrivés dans l'archipel plus tard. L'archéologue ne nie pas qu'une technique similaire de taille d'outils aurait pu être inventée en Sibérie avant de se propager à la fois au Japon et en Amérique du Nord, par la Béringie. Mais, jusqu'à présent, en Asie, ces outils bien spécifiques n'ont été trouvés que sur deux sites japonais, tous les deux sur Hokkaido, la plus nordique des grandes îles nippones. Or, si les populations qui savaient fabriquer ces outils occupaient une île, cela signifie que leurs ancêtres sont arrivés par la mer et qu'ils maîtrisaient donc des techniques de navigation. Les Vikings du Pacifique. Les îles Ryukyu sont situées au sud-ouest du Japon. S'y rendre depuis le continent sans moteur est complexe à cause du puissant courant Kuroshio qui passe entre les deux. Et pourtant, des embarcations préhistoriques ont bien dû faire le trajet puisqu'on trouve sur ces îles plusieurs sites archéologiques vieux de 30 000 à 35 000 ans. Dans une recherche pour le moins originale publiée en 2025 dans Science Advances, des anthropologues japonais ont montré comment on aurait pu naviguer dans ces eaux il y a 30 000 ans. Avec des reproductions d'outils avérés de l'époque, ils ont abattu un cèdre et creusé son tronc afin d'en faire une sorte de pirogue de près de 8 mètres de long. Puis, 5 navigateurs ont relié à la pagaie Taïwan, intégrée au continent à l'époque à cause de la baisse des eaux, à une des îles Ryukyu, soit un trajet de plus de 200 km en haute mer, effectué en 45 heures. Pour Lauren Davis, il est donc tout à fait envisageable qu'une flottille de petites embarcations ait quitté Hokkaido, ou une région avoisinante, il y a 20 000 ans. Ces gens auraient plus ou moins suivi la côte asiatique vers le nord, puis celle de la Béringie avant de redescendre le long de la côte américaine. Ce périple se serait bien sûr réalisé sur plusieurs générations et par phases, en incluant probablement des périodes de sédentarisme côtier. Quelles sont les preuves archéologiques d'un tel voyage autour du Pacifique? C'est là que le bât blesse. Tous les sites où auraient accosté et vécu les clans ont fort probablement été engloutis lors de la remontée des eaux à la fin de l'ère glaciaire. Lauren Davis considère qu'il existe, selon ses mots, une preuve négative. L'absence de sites archéologiques dans l'extrême nord-est de la Sibérie et en Alaska. Pour lui, si les tribus avaient traversé la Béringie à pied, on aurait dû en trouver. Ce à quoi les critiques font remarquer que c'est souvent lors de projets de construction qu'on trouve des artefacts archéologiques, mais qu'ils sont rares dans ces régions peu peuplées. Cependant, en 2023, une équipe de l'Université de Victoria a rapporté la découverte de traces d'une habitation vieille de 14 000 ans sur l'île Triquet, à 450 km au nord de Victoria, en Colombie-Britannique. Cette découverte étaye l'hypothèse d'une migration maritime, au moins le long de la côte ouest de l'Amérique du Nord, quand la calotte glaciaire recouvrait encore le continent. Pourquoi les scientifiques ont-ils cherché dans cette région? Parce que, selon la tradition orale de la première nation côtière, Eltsuk, il s'agissait d'une région qui n'était pas gelée à une époque lointaine où le continent était recouvert de glace. Vous écoutez « La plus longue migration de l'histoire », un texte de Bruno Lamollet paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. La conquête de l'Est. Voyager par bateau le long de la côte aurait aussi permis à ces groupes pionniers d'entrer au sein du continent par les fleuves. Le premier grand cours d'eau navigable sur leur chemin aurait été le fleuve Columbia, qui sépare l'Oregon de l'État de Washington. La colonisation se serait ensuite poursuivie vers l'Est jusqu'à l'Atlantique. Malgré tout, est-ce qu'une vague de migration nord-sud par le corridor à l'est des Rocheuses aurait pu succéder à une migration le long de la côte Pacifique? Dans les cavernes Bluefish au Yukon, une équipe de l'Université de Montréal a retrouvé des os d'animaux taillés par des outils et datés d'il y a 24 000 ans. Cela laisse penser que la Béringie avait au moins été traversée à pied jusqu'aux murailles de la calotte glaciaire. Mais, même si ces peuples ou leurs successeurs ont emprunté le corridor ouvert 10 000 ans plus tard, ils n'ont pas participé au peuplement des Amériques. C'est ce qu'indiquent clairement des analyses génétiques publiées en 2015 dans Science. Celles-ci comparaient le génome de membres actuels et anciens, de quelques milliers d'années, de Premières Nations nord-américaines avec celui de personnes vivant actuellement en Sibérie. Ces analyses montraient que les Premières Nations actuelles descendent d'une seule population colonisatrice. Et le nombre de différences génétiques entre les populations actuelles laisse croire que cette population originelle est arrivée il y a environ 20 000 ans, au maximum 23 000 ans. Le génome de chaque individu contient l'histoire de ses ancêtres, explique Damian Labouda, généticien des populations à la retraite de l'Université de Montréal. Quand un groupe se sépare d'un autre, son ADN va changer un peu du fait de l'isolement et de l'adaptation à un nouveau milieu. La comparaison des similitudes et des différences au sein de génomes de plusieurs groupes permet donc d'établir leur degré de parenté et d'estimer le moment où ils se sont séparés les uns des autres. Ces travaux ont aussi révélé que ce premier groupe s'est scindé en deux il y a environ 13 000 ans. il a donné naissance aux premières nations dites du Nord et à celles dites du Sud. C'est de cette dernière population fondatrice que sont issus les groupes qui ont colonisé l'Amérique centrale, puis l'Amérique du Sud. Direction Sud. Le peuplement de l'Amérique du Sud semble avoir moins intéressé les scientifiques que celui de l'Amérique du Nord. Possiblement parce que les tout premiers colons des Amériques marquent plus les esprits. Voilà qui est dommage. Selon Kim E. Lim, généticienne des populations à la Nanyang Technological University de Singapour. Ces Asiatiques qui ont quitté leur continent et ont atteint la Patagonie, au sud des Amériques, sont la population qui a effectué la plus longue migration de l'histoire de l'humanité, résume-t-elle, soit environ 20 000 kilomètres en quelques milliers d'années. Et la distance n'était pas le seul défi. Partir du nord-est de l'Asie, monter vers l'Arctique, redescendre vers l'Équateur, puis vers les régions froides du sud de l'Amérique du Sud, cela représente chaque fois des adaptations climatiques, écologiques et alimentaires importantes, renchérit Damian Labouda. Bref, cela a été toute une épopée. En 2025, l'équipe de Kim E. Lim a publié les résultats de l'analyse de plus de 1500 génomes complets de 139 ethnies d'Amérique du Sud et d'Asie dans la revue Science. Cette étude confirme, sans surprise, une lointaine parenté entre les populations d'Amérique du Sud et les peuples d'Asie du Nord-Est, tels que les Koryak et les Yupik, peuples de Sibérie. Le plus marquant de l'étude de Kim E. Lim reste toutefois que les nations autochtones du sous-continent se classent en quatre grands groupes génétiques reliés les uns aux autres, mais aussi distincts et adaptés à leur environnement. Les Amazoniens dans la forêt tropicale, les Andéens dans les montagnes, les Patagoniens dans le sud froid et les Chacos à l'intérieur semi-aride des terres. Ils proviendraient de la dispersion d'un groupe originel présent en Colombie et arrivé du Panama. On ignore s'il est arrivé à pied ou par bateau le long de la côte. En revanche, les quatre lignées se sont distinguées génétiquement les unes des autres il y a 14 000 ans au maximum. Cela signifie que les premiers colons ont foulé le continent sud-américain bien avant. Nos résultats sont compatibles avec l'existence du site archéologique de Monteverde, fait remarquer Kim E. Lim. Monteverde, sur la côte chilienne, abrite les restes d'un campement daté de 14 500 ans. Cette découverte a été un des clous dans le cercueil de l'ancienne vision de la colonisation des Amériques, limitée au site de Clovis, au Nouveau-Mexique. Le site chilien est effectivement environ 1000 ans plus vieux. En outre, sa localisation côtière étaye l'hypothèse d'une migration par bateau le long de la côte sud-américaine. On y revient sans cesse. Scepticisme endurci. La découverte du site de Monteverde a fortement contribué à l'abandon de l'hypothèse d'une colonisation plus récente des Amériques, appuyée, pour rappel, sur le site de Clovis au Nouveau-Mexique, daté de 13 000 ans. Et puis, coup de théâtre en mars 2026. Dans Science, une équipe remet en question les travaux de datation menés sur le site de Monteverde. Elle fait valoir, par exemple, que la couche géologique qui a aidé à dater le site aurait été contaminée par du bois plus ancien, ce qui aurait augmenté artificiellement l'âge de celle-ci et donc du site. Elle estime qu'il serait âgé au maximum de 8200 ans. Même si cela est vrai, l'hypothèse d'une arrivée en Amérique antérieure à l'occupation du site de Clovis reste soutenue par d'autres preuves archéologiques et génétique, comme celle indirecte de Kim E. Lim. Mais l'âge du site de Monteverde possède une forte valeur symbolique. Et la controverse est déjà véhémente dans les pages de Science. L'analyse géologique de la nouvelle étude est critiquée. Et on pointe que ses auteurs ignorent la datation des artefacts eux-mêmes. En archéologie, il y a place à beaucoup d'interprétations. Tous les éléments de preuve doivent être argumentés, reconnaît Lauren Davis, qui est très critique de la nouvelle étude. Par conséquent, sur certains sujets chauds comme le peuplement des Amériques, quand une découverte cadre mal avec les hypothèses défendues par d'autres scientifiques, le scepticisme, nécessaire à l'avancement de la science, peut trouver prise assez facilement. Et les débats peuvent ainsi s'éterniser. D'ailleurs, Lauren Davis se dit toujours non convaincu que les empreintes humaines laissées à White Sands, mentionnées au début de l'article et dont Québec Science a déjà parlé il y a 2 ans, datent bien de 23 000 ans. Mais il a su rester très ouvert. Si ça se confirme, on s'adaptera. L'important, c'est que ces traces ont été laissées par des membres des premières populations américaines. Et pour ça, elles sont un trésor national. Quand l'Asie et l'Amérique étaient reliées. Au cours de la dernière ère glaciaire, une période particulièrement froide a débuté il y a 29 000 ans et s'est achevée il y a 16 000 ans. Le Canada et le nord des États-Unis étaient alors recouverts d'une épaisse calotte glaciaire. Les précipitations gelaient à la surface de celle-ci, si bien que le niveau des mers, sous-alimenté en eau fluviale, a baissé de plus de 100 mètres. Cette diminution a exposé à l'air libre le fond du détroit de Bering. Une toundra semblable à celle de l'Alaska y a pris racine, donnant naissance à la Béringie, aride et donc épargnée par les glaces. La calotte glaciaire qui recouvrait le Canada et le nord des États-Unis se composait en fait de 2 calottes qui entraient en contact le long des rocheuses. Quand les glaces ont commencé à se retirer, un corridor s'est naturellement formé entre les 2, longeant les rocheuses du côté est. Et les Inuits? Les Inuits ne descendent pas des ancêtres des Premières Nations, présents en Amérique il y a au moins 16 000 ans. Toutes les nations Inuits proviennent d'une civilisation arctique dite de Thule. Ses membres auraient traversé le détroit de Bering vers l'an 1000, en marchant sur la banquise ou par bateau, comme l'Umiak, une petite embarcation à pagaie pouvant accueillir 10 de personnes. L'analyse génétique de cheveux vieux de 4000 ans et retrouvée dans le pergélisol groenlandais, publiée en 2010 dans la revue Nature, a révélé une parenté entre leurs propriétaires et des peuples sibériens. Des populations asiatiques auraient donc occupé le Grand Nord il y a 5000 ans. C'était « La plus longue migration de l'histoire », un texte de Bruno Lamollet paru le 8 mai 2026 dans la revue Québec Science.